Salut
et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les deux semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière.
Salut Claire, bienvenue dans le podcast.
Merci beaucoup, salut à toi.
Présente-toi un petit peu, qui es-tu?
Du coup, moi je suis Claire, j'ai 25 ans, je suis infirmière depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai fait l'école en 2015 jusqu'à 2018, donc diplômée de 2018 sur Agen. Entre-temps, avant d'être infirmière en crèche, comme je suis actuellement en poste, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai pu faire du SSR gériatrique pendant 2 ans. Et après, je suis passée sur de l'intérim. Donc, j'ai eu l'occasion de faire du domicile, de la psychiatrie, de l'EHPAD, un peu d'urgence. Et finalement, je suis arrivée en crèche depuis mars.
Ok, super. Donc là, depuis mars, t'es en crèche et t'es là aujourd'hui pour nous parler de ton expérience en crèche. C'est quoi déjà? Parce que c'est vrai que c'est assez spécifique. À l'école, on a tendance à voir les services conventionnels. Et c'est vrai que je sais qu'il y a j'avais des collègues à l'époque ou des amis pour qui ça leur parlait et ça les intéressait de finir en crèche. Et tu vois, je suis assez étonné parce que même moi, tu vois, étant assez mal renseigné sur le sujet, je pensais qu'il fallait être puéricultrice, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on arrive à être infirmière en crèche et quelle est la différence avec être infirmière en crèche sans diplôme en plus ou devenir puéricultrice?
Alors, bon, pour être infirmière en crèche, c'est vrai que c'est pas forcément simple si tu n'es pas puéricultrice, parce que généralement, on te demande de l'expérience soit en service de pédiatrie, soit auprès d'enfants, mais une expérience quand même conséquente, parce que tu te retrouves quand même seule avec les enfants. Donc moi, j'ai eu de la chance, comme j'ai passé le BAFA quand j'étais plus jeune, j'ai pu travailler avec des enfants, j'ai l'option assistant sanitaire, donc ça me permet d'avoir déjà eu affaire à des urgences auprès d'enfants à gérer. Et donc c'est vrai que le poste s'est proposé, j'ai postulé en étant cash, en disant je suis pas puéricultrice, j'ai pas d'expérience en service médical auprès des enfants, mais ce poste m'intéresse énormément, je suis prête à m'investir, à bosser, j'ai eu de l'expérience avec les enfants avec le BAFA et du coup je pense que le feeling est bien passé, donc c'est passé. Mais effectivement, je pense que la formation de Pierre peut être un plus. Après, effectivement, en fait, la puéricultrice au sein de la crèche, elle peut être directrice de crèche. Moi, en tant qu'infirmière seulement, je peux pas être directrice, donc c'est la notion un peu qui diffère. Bon, après, du travail, c'est très varié, hein. J'ai le même rôle que les filles qui travaillent en crèche, donc ça va être le rôle de soins, un peu de nursing avec changer les couches, préparer les biberons, les mettre au dodo, les aider à s'endormir aussi, faire des chansons, des comptines, l'animation, vérifier quand même le bon développement aussi de l'enfant au sein du groupe, le lien avec les parents qui est vachement important, mettre en place des activités, des ateliers. Et en fait, à toutes ces missions-là qui sont classiques, on va dire, en crèche, je rajoute toute la partie médicale et infirmière. Et donc là, tu rajoutes vérifier les vaccins lors de l'inscription s'ils sont à jour et au fur et à mesure de l'année également. Administrer les traitements quand il y en a. En ce moment, il y a plein d'antibiotiques à reconstituer, à donner. Il y a plein de gouttes à mettre dans les yeux. Vérifie donc d'abord les prescriptions, un peu comme un service. Tu vérifies ta prescription, ta posologie, tu reconstitues ton traitement. Tu vérifies l'effet après avoir donné à l'enfant. On met en place des PAI. Donc ça va être les protocoles d'accueil individualisés. Un enfant qui est asthmatique, par exemple, pour pouvoir l'accueillir au sein de la crèche en sécurité, on va demander une ordonnance pour de la ventoline, un baby à l'air, et ça va être à moi de mettre en place tout ce protocole, former l'équipe s'il y a besoin, parce que tout le monde ne sait pas l'utiliser, le produit. Il y a aussi, oui, effectivement, identifier toutes les pathologies qui sont à éviction. Donc il y a plein de maladies infantiles notamment, où si les enfants sont en collectivité, toute la crèche finit par l'avoir. Et pour éviter ça, on doit repérer un peu les signes précurseurs, mettre en place des gestes barrières renforcés, des trucs comme ça. Il y a aussi tout ce qui est bobologie, où ça va être une chute, une morsure, des convulsions fébriles, des choses un peu plus dans l'urgence, des allergies aussi, des réactions allergiques, des vomissements, des choses comme ça, où ça va être moi qui suis référente, donc qui suis appelée. Et après, il y a aussi le rôle d'assistante de direction. Donc quand la directrice n'est pas là, on est deux à prendre son relais. J'ai une collègue qui va s'occuper de l'administratif, et moi, de tout ce qui est médical, ce que je fais déjà, mais ça va être le lien avec la PMI, par exemple, si on a des doutes. En ce moment, avec le Covid, ça va être tout ce qui est lien avec l'ARS, parce que si on a des cas contacts auprès des parents, des choses comme ça, sur les conduites à tenir, les évictions, les trucs comme ça. Donc ça va être assez complet comme rôle. Après, c'est vrai que ça diffère, je pense, pas trop de la puère. Si... Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, une puéricultrice en crèche, si elle est directrice, elle aura en plus de tout ce rôle-là, vraiment un rôle plus de direction, moins auprès des enfants, je pense. Alors que moi, c'est vrai que je suis vraiment dans le quotidien de l'enfant. Tous les jours, je suis dans la section avec eux, quoi.
D'accord. Et on voit que c'est un poste quand même avec une plus grosse responsabilité que nous, ce qu'on peut avoir au travail quand même.
Mais c'est sûr qu'on est quand même un peu seul parce que pour le coup, je suis un peu la seule responsable médicale dans la crèche. Mais j'ai quand même avec moi deux auxiliaires de puériculture, donc qui ont aussi un petit regard médical. Après, on va travailler avec des éducateurs de jeunes enfants, des CAP petite enfance qui, elles, sont plus sur le côté développement de l'enfant. Mais c'est vrai que oui, quand j'ai des urgences ou des choses comme ça, il faut savoir les choses ou savoir réagir correctement dans le sens où on est un peu tout seul, ouais.
Il y a un aspect qui m'intéresse énormément et je pense que l'auditeur aussi. Moi, pour te dire, les crèches, je n'ai jamais mis les pieds dans une crèche. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. J'imagine un endroit avec plein d'enfants. Oui. Et j'ai pas exactement le visuel. Oui. Ça se passe comment une journée à la crèche, par exemple?
Alors, bon, déjà, juste pour te présenter un peu une crèche. Donc, nous, on est en différentes sections qui sont donc 14 enfants par section. Les enfants, dans notre crèche, ils sont classés par âge, entre guillemets. On a une première section de bébés, où tu vas avoir les enfants de 3 mois à 11 mois à peu près. Tu as la section des moyens, dans laquelle je suis référente, où tu as les 11 mois, 1 an, jusqu'à 18 mois à peu près. Et tu as les grands, où là, ça va être les 18 mois jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi en début d'année, qui l'an prochain iront à l'école. Donc, le matin, en fait, quand les enfants arrivent avec les parents, il y a un petit interphone, donc ils doivent sonner. Nous, on doit vérifier l'identité des parents à travers un petit écran, vérifier que c'est bien le bon parent, le soir, le matin, etc. Et donc ensuite, tu as un temps de transmission où le parent va te raconter un petit peu la nuit, le week-end ou la veille de l'enfant. Donc, on demande généralement à quelle heure est-ce qu'il s'est levé, combien il a pris au bibi du matin et à quelle heure il l'a pris. Et s'il y a des soucis ou des choses à nous signaler, que ce soit médical ou juste en ce moment, voilà, c'est pas la forme. Ils nous donnent toutes les infos dont on a besoin pour qu'on puisse accueillir l'enfant au mieux. Et ça, avec chaque parent, donc dans la crèche où je suis, chaque jour ça change de professionnel. Donc un matin ça va être moi, le lendemain ma collègue, et on écrit tout, comme ça au moins on peut tout avoir accès à l'information. Jusqu'à, en gros, de 7h30 jusqu'à 9h30, on a le temps qui est d'accueil et où on fait les transmissions avec les parents. Pendant ce temps, il y en a donc une qui va faire les transmissions avec les parents et l'autre professionnelle va être auprès des enfants, posée, à faire des petits jeux, des choses comme ça, plus calmes, ou en jeu libre. Et ensuite, à partir de 9h30, une fois que tous les enfants normalement sont là, on fait un petit temps de chanson, donc ça va être... au niveau du développement de l'enfant, on demande à ce que ce soit très ritualisé pour qu'il soit vraiment habitué à un rythme et qu'il soit pas perdu. Les professionnels, c'est toujours les mêmes. Et les temps, c'est toujours pareil. Donc on fait un temps de chanson où on dit bonjour à chaque enfant, comme ça, pour l'individualité de l'enfant, c'est super important. Et après le temps de chanson, il y a une professionnelle qui va proposer une activité un peu plus dirigée. Donc ça peut être un atelier moteur, un atelier motricité fine, un atelier plutôt créatif. Ça dépend vraiment des envies des pros. Et pendant ce temps, il y en a une autre qui va faire le change, donc changer les couches des enfants, pour que ce soit fait dans la matinée au moins une fois. Également, s'il y a des enfants qui ont besoin de faire dodo le matin, on les prépare et on les met dans le lit. Et ça va durer jusqu'à 11h. À 11h, moi qui suis infirmière, j'ai un petit truc en plus. En gros, je fais le tour des autres sections. Parce que jusqu'à 11h, je suis qu'avec mes enfants à moi. Et à partir de 11h, je vais voir ce qui se passe chez les bébés et chez les grands. Et là, je vais faire un petit recueil d'infos. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que j'ai des ordonnances? Est-ce que j'ai des médicaments? Qu'est-ce que j'ai à voir, en fait? Je fais ce petit tour pendant une demi-heure. À 11h30, et j'administre également les thérapeutiques, les traitements, si c'est en fonction de l'heure. Donc souvent, c'est vers 11h, 11h30. À 11h30, quand je retourne dans la section, ensuite, c'est le moment du repas. Donc, on a pas mal de règles au niveau du repas, mais en gros, chaque enfant, il faut se dire que comme ils n'ont pas les mêmes âges, ils n'ont pas forcément les mêmes textures au niveau de l'alimentation. Donc, il y en a, ça va être lisse, d'autres, ça va être en mouliné, un peu comme en EHPAD avec des personnes âgées, quoi, en gros. Et il y en a, c'est sans viande, avec viande. On adapte tous les menus à chaque enfant. Donc nous, on fait manger les enfants au sein de la section. Donc on installe des toutes petites tables avec des toutes petites chaises. Chacun a son assiette et puis on les sert. On aide les plus petits à manger. parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas tous autonomes encore. Alors, c'est un vrai carnage à la fin du repas. Il y en a partout. Et une fois qu'on a terminé le repas, il y en a une qui nettoie, une autre qui se pose auprès des enfants. On commence l'échange pour les mettre à la sieste ensuite. Donc, au fur et à mesure qu'on les change, on les met au dodo. Parce que si on les met tous d'un coup, c'est la catastrophe, hein, clairement. Et ensuite, bah, petit à petit, ils s'endorment. Il y en a quelques-uns qui restent dans la section à faire des jeux calmes, d'autres qui dorment. Et en fait, dans la crèche où je suis, on respecte le rythme de l'enfant. Donc, tant qu'il dort, on ne le réveille pas. Donc, ça dépend des endroits après. Mais je sais que, voilà, on a à 15h30 le goûter. Mais si l'enfant, il dort, eh ben, il goûtera plus tard quand il se réveillera. Il n'y a pas de souci. Donc, on fait les goûters vers 15h30 jusqu'à 16h. Encore des jeux libres, plutôt libres. Et à partir de 16h30 jusqu'à 19h, on a de nouveau le temps des parents. Où là, c'est l'inverse. C'est nous qui allons raconter aux parents la journée de l'enfant. Donc, généralement, ça va être la sieste. De quelle heure à quelle heure est-ce qu'il a dormi. Le repas, s'il a bien mangé, pas beaucoup. S'il a mangé un peu en décalé ou pas. Et ensuite, ça va être, on essaye de raconter des petites anecdotes sur la journée de l'enfant. Ah ben aujourd'hui, il s'est amusé à faire ça aussi. Si on peut, on prend des photos également, comme ça on peut leur montrer la photo de l'enfant qu'il a fait dans la journée. S'ils ont fait des dessins, on montre le dessin, des choses comme ça. Jusqu'à 19h et après, on doit ranger tout, nettoyer les jouets, renflouer les stocks de serviettes, de bavoirs, etc. Et puis après, on rentre à la maison.
Et du coup, c'est un poste qui est de J, comme on dit, de jour, ou tu peux avoir des matins et des après-midi?
Alors oui, c'est des postes en 7 heures. Donc en fait, on fait des horaires variables. Ce matin, par exemple, j'ai commencé à 7h30, donc j'ai fini à 15h30. Je peux être amenée à faire 8h16h30, 9h30-17h30, ou bien 11h-19h. En fait, sur la section, on est 4 professionnels. Et en fait, on fait chaque jour un horaire différent pour que... il y ait au moins une professionnelle sur chacun des horaires pour une journée. Donc comme ça, on permet de vraiment lisser toute la journée et de voir l'enfant au max. Mais ouais, pas de nuit, pas de week-end également, et du 7h.
Tout à l'heure, tu disais que du coup, tu as des enfants, tu me dis si je me trompe, de 0, de 3 mois, c'est ça, oui, à peu près, ouais. jusqu'à 3 ans maximum. Est-ce que toi, parce que c'est vrai que... je me rends vraiment pas compte. Est-ce que tu tisses un lien avec l'enfant? Est-ce que les enfants te reconnaissent? Parce que c'est vrai que c'est des âges que je connais pas du tout. Comment ça se passe?
Eh bien, bon, nous, déjà, le fait d'avoir des professionnels attitrés à chaque section, ça aide énormément. Alors, chez les bébés, si je dis pas de bêtises, je sais que l'attachement est différent jusqu'à 7-8 mois. Il y a pas de souci dans le sens où l'enfant, il va pas forcément mettre des images, des choses comme ça. Par contre, on sent vraiment un réel attachement. Moi qui vais un peu dans toutes les sections, je connais chaque enfant. Généralement, ils me reconnaissent aussi. Quand ils ont pas le langage, effectivement, ils nous appellent pas forcément par le prénom, mais ils sourient, ils viennent nous voir. L'avantage en crèche, c'est vrai qu'on a quand même un lien énorme dans le sens où moi, les enfants de ma section, je les vois tous les jours. Et généralement, je suis là 7 heures. Il y en a, je les vois. Quand je pars, ils sont encore là. Donc, je les vois toute la journée. Donc oui, on a une proximité avec l'enfant où je suis amenée à faire des câlins, à faire des guilis, à faire des jeux avec eux. Effectivement, quand on rentre dans la section, tu dis bonjour à chaque enfant personnellement, vraiment pour l'individualité. Bonjour Adam, bonjour. Et ça permet que chaque enfant se reconnaisse et puis ça crée du lien. Et généralement, les enfants, quand on rentre dans la salle, hop, ils courent vers nous pour nous faire des gros câlins, pour nous dire bonjour. C'est vrai que si, c'est un lien énorme. Avec les parents aussi, dans le sens où les parents, on les voit le matin, le soir. Donc c'est vrai qu'ils sont souvent amenés à nous échanger sur leur vie aussi personnelle, plus que sur l'enfant des fois. Alors bon, des fois, on n'a pas forcément envie de savoir. Mais oui, il y a un lien énorme qui se crée, ouais. Près de l'enfant.
On dit que l'infirmier aussi peut parfois être un peu un psy.
C'est ça.
Dans notre quotidien, c'est normal. J'avais une question à te poser. Et toi, c'est quoi qui t'a poussé à partir là-dedans?
Alors, la contrainte, déjà, disons que le 12h, je commençais à être fatiguée de faire du 12h en hospitalier parce que les jours de repos, j'étais vraiment fatiguée. Le soir, après être rentrée de ma journée de 12h, je faisais rien de plus, quoi. Donc, vraiment, je voulais plus du 12h. Et quand j'ai commencé à chercher un peu ce qu'il y avait en parallèle de l'intérim, je suis tombée un peu sur la crèche par hasard parce que j'avais un peu la même idée que toi, dans le sens où, pour moi, être infirmière en crèche, il fallait obligatoirement être puéricultrice. Donc, quand j'ai vu que non, en fait, c'était pas le cas, ben, j'ai foncé. Disons que j'ai toujours apprécié le contact avec les enfants. J'appréhendais un petit peu le côté plus médical, parce que c'est quand même différent que quand, avec le BAFA, je travaillais, que les enfants ils étaient en bonne santé, etc. Mais finalement, je me rends compte qu'à la crèche, ils sont quand même souvent en forme aussi. Vraiment, oui, plus le côté proximité avec l'enfant, de le voir évoluer, de le voir grandir. Il y a des enfants, quand je suis arrivée en mars, ils n'étaient pas capables de marcher. Et là, actuellement, ils marchent, ils parlent, ils vont aux toilettes en quelques mois, même pas un an. Et c'est énorme de voir l'évolution qu'il y a. Enfin, c'est génial, quoi.
Je me demandais, vous, quand vous travaillez en crèche, vous travaillez en tenue d'infirmière ou vous êtes en civil ?
Alors non, en fait, c'est un peu comme on veut. Moi, dans la crèche où je suis, à cause du Covid, on est obligé d'avoir une tenue crèche. Mais du coup, c'est vraiment libre. Donc personnellement, je suis habillée comme tous les jours. Généralement, je me mets plus des tenues confortables. Ça va être des leggings, des joggings, des hauts un peu amples ou mignons. Et par contre, non, pas de surblouse ou quoi. Dans le sens où, effectivement, c'est pas forcément nécessaire parce que l'enfant, il fait pas forcément le lien entre ton rôle dans la crèche, si t'es une JE, un CAP ou une infirmière ou une auxiliaire. L'enfant, il s'en fiche, quoi. Il est pas là pour s'occuper de ça. En soi, les parents, ils savent, donc il n'y a pas besoin de tenues vraiment différentes. Donc moi, je privilégie plutôt le confort. Et moi, j'aime bien me changer en rentrant du travail quand même, mais parce qu'on se fait baver dessus, on se fait cracher dessus. Il y a des fois la nourriture pendant les repas, c'est sympa. mais c'est plus du confort personnel qu'autre chose.
T'as des anecdotes justement par rapport à ça
Ah mais les repas. Moi, hier midi, j'ai une petite qui. Donc en fait, pour le goûter, ils ont un yaourt, une compote et un petit morceau de pain. Donc elle a mangé son yaourt, la petite à côté mangeait son yaourt aussi. Elle a fini son yaourt, je lui donne une compote, elle commence à manger la compote. J'ai la petite fille de début qui voit la compote, qui arrête de manger son yaourt, qui me montre la compote. Je lui explique que bon, il faut qu'elle termine son yaourt et qu'elle aura ensuite la compote. Elle n'a pas apprécié, elle a pris la compote, elle me l'a non, le yaourt. Elle me l'a renversé sur la table en me regardant et en rigolant. Et là, tu te dis, bon, bah, c'est chouette. Donc, on a des petits, des petits moments où il faut respirer.
Ça me fait penser à un truc, un truc qu'on n'a pas abordé. Du coup, toi, les parents ne sont plus là.
Oui.
Comment ça se passe au niveau de l'autorité parentale, par exemple ? Est-ce que les enfants, après, c'est vrai qu'ils sont jeunes et je ne me rends peut-être pas compte parce que c'est vraiment un milieu que je ne connais pas.
Oui.
Est-ce que toi, tu as peut-être un côté où... Déjà, comment tu sais jusqu'où tu peux te permettre d'aller, par exemple dans les sermons, tout ça, et par exemple aussi, si l'enfant par exemple te résiste, est-ce que ça peut arriver aussi que l'enfant par exemple se dise « t'es pas ma mère, t'es pas mon père » ?
Alors, effectivement, les enfants, dis-toi, jusqu'à 2 ans et demi, enfin les enfants qu'on a à la crèche, niveau langage, jusqu'à 2 ans, ils sont pas capables de formuler des phrases comme ça. Par contre, nous, on a un rôle en tant qu'adulte de vraiment donner des règles. Dans le sens où l'enfant, si tu ne lui donnes pas de règles, il va chercher ses règles, il va chercher les limites. Donc, il va faire n'importe quoi jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « stop, maintenant tu arrêtes ». L'avantage de travailler dans une équipe pluridisciplinaire avec les éducateurs jeunes enfants notamment, c'est vraiment top parce qu'eux, ils ont énormément de clés pour ça. Dans le sens où un enfant, on va pas forcément c'est pas forcément gronder. Ça va être, là par exemple, pour le coup du yaourt qui était sur la table, c'est pas forcément le gronder, c'est lui expliquer que non, ça ne se fait pas, que s'il termine, en fait, vraiment dans la formulation, la verbalisation de tout, que s'il veut la compote, il termine, là, en l'occurrence, son yaourt, parce que c'est vraiment un caprice, c'est pas de la faim ou des choses comme ça. Mais si, par exemple, j'ai un enfant qui va venir frapper ou mordre un autre enfant, on va intervenir pour stopper déjà l'acte, on va avoir le rôle de réconfort auprès de l'enfant qui a été blessé, et on va avoir un rôle d'expliquer à l'enfant qui a fait l'acte en verbalisant « Écoute, là, tu vois bien que ce que tu as fait, ça a engendré de la douleur chez ton copain, et il faut pas recommencer. » Donc ça va vraiment être plus de la verbalisation des choses, parler, Mais évidemment, tu te doutes bien, on n'a pas le droit de frapper, de taper, ça c'est vraiment interdit. Même attraper ou secouer, c'est formellement interdit, hein. Enfin, c'est mort. Mais généralement, l'enfant, une fois que tu poses les choses, tu remets le cadre en disant « c'est interdit », on va être énormément dans le positif, dans la verbalisation. Un enfant qui monte sur une table, tu ne vas pas lui dire « tu ne montes pas ». Tu vas essayer de dire « tu descends ». Parce que si tu lui dis « tu ne montes pas », il va entendre le verbe « monter » et pour lui, il va entendre « monter ». Donc, je monte sur la table. Donc, ça va être vraiment essayer de donner les mots justes. Tu descends de la table. Et tu vas expliquer « c'est interdit » et tu vas expliquer pourquoi. Parce que tu te mets en danger en faisant ça. Et s'il continue, au bout d'un moment, bah, tu le mets à l'écart en lui expliquant qu'il faut arrêter. Généralement, ça suffit, ils arrêtent. Si on voit que nous, parce qu'on a quand même nos limites aussi, et quand un enfant, tu le reprends 3 fois, au bout d'un moment, ça peut être pas facile à gérer. Généralement, on passe aussi le relais à un collègue qui va aussi, lui aussi, pouvoir expliquer à l'enfant « maintenant, tu arrêtes ». Mais c'est tout, on verbalise énormément, on parle beaucoup.
Toi, c'est quoi ce qui te plaît dans cet aspect en crèche ?
Voilà, le côté bienveillant est vraiment, vraiment super. Je sais que toutes les crèches ne sont pas comme ça, malheureusement, parce que le nombre de personnel n'est pas forcément optimal, parce que des fois, il y a beaucoup plus d'enfants, etc. Mais l'avantage d'où je suis, c'est qu'on peut vraiment s'appuyer sur l'équipe, donc le travail d'équipe est vraiment présent, et j'apprends des choses tous les jours, enfin, que ce soit côté médical, mais aussi côté, comme on disait, éducation un peu positive et bienveillante. Et c'est vraiment génial de voir que ça marche sans forcément crier ou élever la voix.
Est-ce que pour conclure le podcast, est-ce que tu aurais par exemple des conseils pour les étudiants qui sont amenés à déjà aller en stage en crèche, mais aussi qui aimeraient travailler en crèche par exemple ?
Si c'est possible, d'essayer de faire un stage en pédiatrie durant les études, durant les 3 ans, pour au moins avoir une expérience avec des enfants dans un côté un peu médical, ça peut être vachement bien pour mettre en avant durant l'entretien. Également, il faut quand même un investissement personnel, dans le sens où la formation infirmière est quand même complète, mais au niveau pédiatrie, on aborde pas énormément de choses quand on y pense. Tout ce qui est pathologie infantile, on ne les maîtrise pas tant que ça quand on sort du diplôme. Donc de vraiment s'investir personnellement et faire beaucoup de recherches sur tout ça. Moi, ce que je dis souvent aux étudiants, infirmiers qui me posent des questions sur ça, c'est vraiment de bosser les maladies infantiles, les traitements également qu'on peut être amené à donner à des enfants, tout ce qui est antibiotiques, tout ce qui est doliprane, tout ce qui est ventoline, le Celestène, Aerius, enfin tous les trucs qu'on peut donner vraiment à des enfants. Et également, si c'est possible de travailler auprès des enfants avant, c'est quand même un plus, je pense. Après, moi, je t'avoue que je pense que je vais passer la formation de puéricultrice l'an prochain et que ça sera quand même un plus pour beaucoup de choses parce qu'on ne maîtrise pas tout et c'est dommage.
Bien sûr. Eh bien, je te remercie, Claire, pour
avec plaisir. Ton interview. C'était chouette. Mais merci beaucoup.
Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.